entre l'attribution en 2012 et aujourd'hui, le monde a considérablement changé. On a eu Daesh, on a la guerre de la Russie en Ukraine qui peut avoir des implications, parce que l'un des scénarios, c'est que des services de renseignement de pays ennemis comme la Russie, par des actions subversives, aident des groupes terroristes sur notre territoire. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que ça donnerait des moyens considérables à des groupes qui n'en ont pas forcément. Et dernier point, et pas le moindre, l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre contre Israël, qui a hystérisé le débat, qui a encore fait monter de plusieurs crans la menace sur le territoire national, et qui a notamment hystérisé.
Donc c'est quoi, c'est le fait du prince
sur la communauté.
Donc vous êtes en train de nous dire c'est Monsieur Macron, pour satisfaire l'ego de Monsieur Macron, on met les Français en danger.
Donc je vais vous dire les choses comme je les pense, et dans la tradition des grandes gueules, ça va être sans langue de bois. Si ça se passe bien, ce sera la réussite du président Macron. Et si ça se passe mal, quel que soit le degré de catastrophe, ce sera la faute d'Emmanuel Macron. Vous pouvez regarder la séquence, je reviendrai après les JO. Si ça s'est bien passé, je dirais, il a eu raison contre tous. Mais par contre, ce que je dis aujourd'hui avant, c'est que autant on peut faire des paris sur l'avenir quand on dit on va reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Ça, c'est quelque chose où on peut le dire, parce que au pire...
Oui.
On a 6 mois de retard.
C'est pas grave.
Et on dit on a tout fait pour, mais on a 6 mois de retard. Et la sanction, c'est juste qu'on a raté le calendrier. Mais là, au pire, ce sont des scénarios dont certains, on va pas rentrer dans du catastrophisme, mais il y a des scénarios, et pas seulement sur la journée de la cérémonie d'ouverture, qui sont des scénarios qui mettraient la France en très grande difficulté.
Mais vous avez entendu ce qu'a dit
Emmanuel. En très grande difficulté, bien au-delà d'un simple attentat.
D'accord, mais Emmanuel Macron a dit le risque zéro n'existe pas.
C'est quelque chose qui est vrai dans la vie. C'est-à-dire que vous prenez votre voiture pour aller travailler, vous traversez la rue, la vie c'est un risque. Mais après, est-ce qu'on peut considérer que le risque zéro n'existe pas quand il y a tant de risques qui sont identifiés? Si vous faites de l'alpinisme et que vous vous préparez pour une sortie et que la météo vient vous dire attention parce que on a du très mauvais temps qui arrive, et vous n'allez pas répondre ah ben le risque zéro n'existe pas. Ça c'est ce que vous allez répondre si on vous dit ah la météo est bonne, mais attention il y a un petit risque d'orage en fin de journée. Là vous allez dire attendez les gars, le risque zéro n'existe pas. À condition d'être bien préparé, bien entraîné. Mais là, on n'est pas du tout dans cette situation. On est dans une situation où, pour la première fois depuis 2015-2016, on a le cumul de 3 risques, que je résume très rapidement. Un risque qui n'a jamais cessé, qui est le risque des attaques individuelles de gens qui sont déjà en France, c'est ce qu'on appelle le risque endogène, avec des attaques avec des moyens simples, des couteaux, etc. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas grave. Un risque de groupe projeté depuis l'étranger, ça fait un an qu'on sait que c'est de nouveau le cas. Le gouvernement, pour des raisons qui lui appartiennent, a dit que ça n'est qu'il n'y avait pas de risque. Et puis, l'affaire de Moscou a fait éclater au grand jour et a conduit les services qui le savaient à contraindre, en quelque sorte, le politique à dire que oui, à nouveau, cette menace existait. Encore une fois, on le sait depuis un an, on le dit depuis 10 jours, mais on le sait depuis un an. Et puis, il y a un troisième risque dont personne ne parle et qui est pour moi le plus inquiétant, c'est le risque des groupes français, de gens qui sont allés au djihad en Irak et en Syrie, dont la plupart sont sortis de prison, qui, il faut le dire, ont du prestige dans plus de 1000 quartiers en France et ont des gens qui les soutiennent, même si beaucoup de gens n'ont pas envie d'entendre ça, mais ils ont des gens qui les soutiennent parmi de nombreux jeunes en France. Et ces gens ont la capacité de recruter des opérateurs, de les former. Ça c'est la question, et ensuite de coordonner des actions. Toute la question, et vous mettez le doigt sur le grand enjeu, c'est est-ce qu'ils ont les moyens de les armer. Jusqu'à aujourd'hui, vous remarquerez que les attentats depuis 2015 avec des Kalachnikovs, il y en a eu que 2. Pourquoi ? Parce que les gens qui tiennent le trafic d'armes font tout pour ne pas vendre d'armes aux islamistes, parce qu'ils savent que les enquêtes judiciaires en cas d'utilisation des armes qu'ils auront fournies pour un attentat vont être beaucoup plus exhaustives que des enquêtes sur des règlements de compte dans le grand banditisme. D'une part, il y a énormément d'armes de guerre, donc forcément il y a un risque qu'il y en a qui passent entre les mains des islamistes. Et surtout, c'est que la guerre d'Ukraine fait qu'il y a un approvisionnement massif d'armements individuels, fusils, pistolets, mais aussi, et en fait la grande inquiétude est là, de missiles anti-chars et de missiles anti-aériens individuels, ce qu'on appelle des manpads, qui sont aujourd'hui en vente sur le Darknet à des prix qui, croyez-moi, ne sont pas chers, et qui sont tout à fait dans les cordes groupes sont constitués par des gens dont je viens de parler. Et c'est là qu'il faut reparler.
Un missile à la cérémonie d'ouverture, ça, c'est un risque.
À la cérémonie d'ouverture, non, mais sur un gros porteur à Orly ou à Roissy, ça, c'est pas un problème.
Ça serait tout,
c'est ça le sujet. En réalité, c'est ça le sujet.